Alors, Mermet, tu vas en avoir des sœurs et des larmes à France Inter, après la diabolisation que vous avez faite envers Nicolas Sarkozy. Vous allez en baver maintenant. J'espère qu'à France Inter, il y aura au moins d'épuration avec le président Cluzet. Vous méritiez bien ça, après tout le mal que vous avez dit du futur chef de l'État. J'espère qu'il aura des représailles, et des sueurs et des larmes, ainsi que de l'épuration de certains animateurs comme vous-même et de certains autres, dont je pourrais citer bien des noms sur votre antenne. Je vous souhaite bien du courage pour la survie de votre émission. Au revoir.
Bon, bah ça y est, Sarkozy président, ben voilà, que tout le monde soit content, hein. On sait maintenant qu'on est entouré par 53% de connards. Allez.
Oui, bonjour Mermet. Mais écoute, tu nous parles souvent de démocratie, de république, toutes ces valeurs fortes. Et aujourd'hui, bien, je suis extrêmement contente, extrêmement satisfaite de voir la leçon de démocratie qui a pu être donnée à toutes les personnes telles que toi qui ont pu, eh bien, pendant des mois, tenter de diaboliser bien Sarkozy. Mais aujourd'hui, c'est la revanche du peuple, c'est la revanche de la démocratie. Vive la démocratie, vive Sarkozy. Au revoir.
Âgée de 91 ans, je n'arrive pas à comprendre que de nombreux Français se soient laissés manipuler par les déclarations mensongères de Monsieur Sarkozy. Ce dernier est le représentant du MEDEF et des multinationales et ne défendra jamais les intérêts des travailleurs, des chômeurs et des retraités modestes. C'est avec une grande désillusion que je finirai mes jours après avoir connu 1936 et 1945, période qui avait amélioré la situation des Français modestes. Paulette d'Orléans.
Oui, bonjour, je vous appelle d'Espagne. Je suis française et j'ai vécu donc dans les deux pays, en France et en Espagne. Et je suis vraiment happénée, vraiment déçue du nouveau tournant que prend la France. Déjà en Espagne, on a eu le malheur de passer par Aznar, deux mandats qui, vraiment, je vous assure, ont eu le malheur d'endormir pendant des années les Espagnols. Sarkozy prend comme modèle, vous le savez, le Parti Populaire, qu'il admire particulièrement. Il a même copié donc la petite mouette. Et sa femme, elle est même la cousine de Gallardón, du PP, maire à Madrid, et qui est mariée, lui, avec la fille de l'ancien ministre franquiste, faut le rappeler, José María Utrera. Et donc, c'est vraiment triste pour la France. Et moi qui me sentais, disons, fière d'un côté, quoi, d'avoir ce côté français, les Français qui sont toujours connus à l'étranger, quand je travaille en tant qu'interprète de conférence, et il y a cet esprit d'analyse, cet esprit critique, d'inconformisme, la liberté d'expression, etc. Et je vois que là, on est préparé pour faire un gros dodo, bien dormir avec Sarkozy. Et bien là, c'est parti pour être le nouveau petit chien d'Amérique. Même sous Chirac, on n'avait jamais vu ça. Et donc maintenant, eh bien, c'est peut-être l'espoir des banlieues. Vive la racaille, puisque à la Révolution française, c'était la racaille de mai 68. Eh bien maintenant, la racaille des banlieues, peut-être que c'est un nouvel espoir. Il y a eu aussi la femme racaille en France qui a obtenu les votes en Europe. Eh bien, écoutez, soutenons la racaille de France et merci beaucoup. Ciao, Daniel.
Avec Ségolène, vous y seriez quand même. Avec Nicolas, vous y seriez déjà. Sors ton cul dimanche soir, Daniel. Tu vas raser les murs, là. Hein. Attention, là. Allez, Nicolas, président.
Oui, c'est Pierre de l'Ardèche. Si Sarkozy est élu, ça me fait penser exactement à Bush et son équipe. Élu démocratiquement, intelligent à la base. Et dans 5 ans ou dans 10 ans, qui est-ce qui va dire « Moi, j'étais fier d'être pour... pour ce président qui nous a fait des horreurs pendant 5 ans ou pendant 10 ans, si vraiment on n'a pas de chance. Quand Chirac a été élu en 95, la majorité des gens étaient contents pour Chirac. Et en 2007, après quelques années de Chirac et de ses gouvernements respectifs, eh bien la situation n'était pas très bonne. Et en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, où maintenant tout le monde lâche bouche, ça risque d'arriver en France et c'est quand même bien, bien dommage. Merci pour vos émissions et à bientôt.
beaucoup de messages, vous en doutez, dans le répondeur de la basse. J'y suis tout au long de ce week-end très particulier que nous avons vécu en France, et on va commencer cette émission d'aujourd'hui avec vos messages. Et puis en deuxième partie, on va retrouver l'équipe du Monde Diplomatique. Vous savez que chaque premier lundi de chaque mois, depuis je ne sais combien d'années maintenant, j'arrive jamais à les compter d'ailleurs précisément, on se retrouve avec l'équipe du Diplo. Évidemment, aujourd'hui, ça va être des réactions, des analyses, des commentaires à chaud sur les résultats des élections d'hier, avec Ignacio Ramonet, Serge Halimi, Dominique Vidal et Bernard Cassène. Donc, voilà les messages que nous avons découverts aujourd'hui dans notre petite boîte vocale. Alors, on va faire un petit retour en arrière tout au cours de ce week-end, avant, pendant et après.
Salut Daniel, je voudrais m'adresser à tous tes auditeurs centristes qui sont déçus de ne pas avoir Bayrou au deuxième tour et qui vont donc s'abstenir. Je voudrais d'abord leur dire que j'aurais bien vu Bayrou président, oui, ça m'aurait pas dérangé. Par contre, s'ils s'abstiennent dimanche, il faut quand même leur rappeler que le seul candidat du premier tour qui a appelé à l'abstention, c'est Jean-Marie Le Pen. Donc s'il y a fort taux d'abstention dimanche soir, ils vont être assimilés au Front National, et Jean-Marie Le Pen pourra brandir au bout de son poing ce chiffre de l'abstention en disant « Regardez quel pouvoir j'ai sur ce pays ». Donc je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs centristes qui vont y réfléchir et qui vont se déplacer dimanche. Maintenant, allez voter pour qui vous voulez, c'est pas à moi de vous le dire, mais pensez à ça. Merci, au revoir.
Paris 4 mai, 12h30. Je lis que la candidate de gauche peine à rattraper son adversaire. Je crie au téléphone après les miens, m'étouffe de sanglots, de colère et de trouille quant à la droitisation de ce pays, mon pays. J'ai peur. Je suis dans un très mauvais film. Là, je découvre que dans ma famille proche, oncle, tante, plutôt à gauche comme je le pensais, vire doucement. À l'instant, ma petite sœur peine à argumenter, mais laisse penser que son vote sera blanc ou un peu à droite. C'est le cauchemar. Je ne sais plus quoi penser. Je me sens démunie, trahie. Ne pas prendre ça avec trop d'affect. Bah voyons. Moi, là, la veille du deuxième tour, j'arrête mon contraceptif. Mais avec 5 à 10 ans de Sarko, il va falloir redoubler d'énergie pour lutter. Alors, en attendant, je vais aller m'occuper des enfants d'Emmaüs, qui n'ont rien, qui ne voient pas le cauchemar qui arrive doucement. Merci. Bientôt.
J'ai en main un document, un rapport du PS sur Nicolas Sarkozy, qui a été fait par toute une équipe et dont l'initiateur était Monsieur Éric Besson. Alors, je ne comprends pas très bien maintenant son attitude. Il écrivait, entre autres, à l'époque, je vous rappelle que c'était en février 2007, hein, donc c'est tout récent, il écrivait, entre autres, sur Sarkozy, « Ce Sarko-show est une arme des dissimulation massive, car celui qui ne cesse de prétendre vouloir être jugé sur ses résultats n'a pas son pareil pour masquer les piètres bilans de son action. Ceux d'un médiocre ministre de l'économie et des finances ou ceux d'un ministre de l'intérieur survolté mais peu efficace. » J'ajoute, est-ce que ce sont des paroles qu'Éric Besson chuchote maintenant à l'oreille de son ami Nicolas Sarkozy ?
Salut Daniel, eh bien, moi je t'appelle des Landes où il fait très beau, on travaille au bord de la mer, là, je suis peintre en bâtiment. Et comme je t'écoute tous les jours, toi et beaucoup de monde, j'avais envie aussi de mettre mon petit grain de sel et de dire, hein, tout qu'on le manque au début, tu vois, là, en écoutant tes émissions, au début c'est franchement marrant, et puis finalement, à force de taper toujours sur le même, eh bien, on commence à prendre parti pour le plus faible. Alors on va dire que le plus faible c'est Sarkozy maintenant, bon, j'ai beau avoir voté Bayrou au début, eh bien, je trouve ça très bien, de l'âme, de voter Sarkozy. Depuis que j'ai vu Ségolène à la télé, je suis décidé à voter Sarkozy. Et au moins, ces émissions auront servi à ça. Allez, je te laisse. Et à bientôt.
Et bonjour, nous sommes le samedi 5 mai, la veille des élections, et je viens de prendre connaissance d'un sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche, où Sarkozy devance Ségolène Royal. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on apprend qu'en fait, Ségolène Royal est devant Sarkozy dans toutes les tranches d'âge, sauf dans la tranche d'âge des plus de 65 ans, où là, Sarkozy fait un tabac, puisqu'il il remporte 75% des intentions de vote. Et bah voilà, c'est intéressant, ça serait peut-être intéressant à commenter, ce genre de sondage. Et bah la conclusion, c'est que il nous reste jusqu'à demain pour dégommer le plus de vieux possible. Hein. Mais non, je plaisante. Papa et maman, je vous aime. Allez, bon courage. Et allez voter. Salut.
En ce temps-là, des personnages qui étaient haut placés décidèrent qu'il fallait simplifier le langage des Français, afin qu'ils se comprennent mieux et discernent tous ensemble où se trouvait le bien, où se trouvait le mal, et qu'ils puissent s'acheminer tous ensemble, et le plus vite possible, vers le pire. Les réformes drastiques du vocabulaire et de la syntaxe furent donc imposées en haut lieu, dans toutes les écoles et dans tous les lieux publics. Tous les mots furent ainsi répartis en deux groupes, distincts, à connotation négative ou positive. D'un côté, ceux qui se terminaient par « isme », stigmatisés comme génétiquement mauvais ou porteurs d'influences néfastes, comme par exemple écologisme, érémisme, communautarisme, mais aussi identitarisme, droit de l'homisme, 68arisme, terrorisme. D'un autre côté, on encouragea l'usage des mots bénéfiques, dotés d'un suffixe aussi délicieux que bilité, lequel serait sans doute en rapport, dit-on, avec la bile. Citons des expressions comme rentabilité, durabilité, profitabilité, traçabilité, flexibilité, désirabilité, débilité. La liste n'est pas exhaustive, et ces mots barbares ou corrects ne feront que se multiplier.
Ouais, salut Daniel, et ben c'est Jean, le petit jurassien, voilà, alors je sors du bureau de vote de mon petit village, où il y a 230 inscrits, et j'étais le 197e à voter, il est 6h moins le quart, hein, 17h50, donc 200 sur 230 on va dire, c'est pas mal. Seulement, une fois de plus, Sarkozy va s'attribuer le mérite de tous ces gens qui vont voter, chez qui il a réveillé la conscience. Non, il a réveillé la peur, et deux, c'est faire peu de cas de toutes les associations dont j'ai fait partie, et qui sont allées dans les ZUP, à une époque où j'habitais encore à la ZUP, de Colmar, pour militer, pour pousser des gens, on faisait du porte-à-porte, pour pousser les gens à voter. Voilà. Bon, et ben, je vous embrasse tous, et puis je vous dis à bientôt, et puis peut-être que c'est pas la fin d'un combat, hein. C'est la lutte qui continue, voilà. J'ai l'air un peu pessimiste, mais je le suis. De toute façon, qui que ce soit qui passe, je le serai un peu. No pasaran, amigo. Ciao.
J'ai croisé France. France, ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu. On était ensemble, je me souviens, à la manif du 1er mai 2002. Et à l'époque, elle était vachement remontée contre le Front National, tout ça, contre le fascisme. Elle n'était pas la dernière à gueuler EF comme fasciste et N comme nazi, tout ça. Alors, je l'aborde comme ça, je lui dis en rigolant, alors toi aussi, tu viens voter Sarko ? Puis elle me dit, ah non, les socialistes, c'est des bouffons, tout ça. J'ai dit, ah bon, d'accord. J'ai dit, t'as voté blanc, alors. Alors, elle est un peu gênée, puis elle me dit, enfin, elle me dit rien. Alors, moi, j'ai dit, t'as pas voté Sarko, quand même, en rigolant. Puis elle me répond, ah, oh, mais tu sais, tu comprends, il faut remettre un peu d'ordre. Il faut un homme à poigne, maintenant, il y a trop de laxisme, tout ça. Putain, j'étais scié. Et puis elle m'a dit bon salut quoi. Et puis je l'ai vu, elle allait rejoindre un mec, une espèce de mec de frimeur là, qui avait un jean, une chemise à carreaux de cowboy, des Santiago, des Ray-Ban. Ils sont montés dans une bagnole, je sais pas, grosse bagnole, au verre fumé, tout ça. J'étais scié, putain, et scié. À l'époque, elle sortait avec Humber, il y a 5 ans. Et puis maintenant, voilà, avec ce mec-là. Et je me dis, c'est pas possible. Je reconnais pas France. Et puis je partais comme ça un peu triste, dans l'attente des résultats qui malheureusement risquent de ne pas être très bons. Et là j'ai croisé Marianne, sa petite sœur. Elle était lycéenne à l'époque. Elle était vraiment dans celle qui gueulait le plus, quoi. Alors Marianne, elle m'a dit, ouais, je t'ai vu, tu parlais avec France. Alors elle a souri, elle m'a dit, ouais, je comprends que tu tires la gueule. Elle a beaucoup changé, France, elle m'a dit. J'ai dit, ah ouais, putain, j'en reviens pas. Alors j'ai dit, et toi, elle me dit, ben moi, comme toi, je suppose, j'ai voté Sego. Mais t'inquiète pas, c'est pas fini, quoi. C'est pas fini. On va encore trouver quelque chose à faire. Le monde s'arrête pas. Alors ça m'a remis un peu de baume au cœur, quoi. Finalement, je préfère Marianne à France. Je m'en aperçois. Elle a grandi, elle est beaucoup plus sympa. Bon. Puis elle a pas trop changé, quoi, elle, par rapport à il y a 5 ans. Tandis que France, oh, quelle horreur.
Un petit conte de notre Claude, notre ami Claude, fidèle du répondeur de la base où j'y suis. Dans un instant, on va donc retrouver l'équipe du Diplo, du monde diplomatique. Encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés tout au long de ce week-end très particulier dans la boîte vocale de la base où j'y suis. Je vais vous dire une petite phrase très brève de Gilles Deleuze. Le pouvoir nous veut triste.
6 mai. 20h01.
Il faut savoir que Nicolas Sarkozy va pas tarder à venir ici, hein, pour combler son public.
Et voilà, mon père Daniel, 20h01, t'es là dans le cul.
Oui, salut, c'est Claire de Saint-Étienne, il est 20h et maintenant on a 5 ans pour lâcher sur rien et être présent sur tout parce qu'on n'a pas le choix, sinon notre démocratie part en couille, quoi. Donc, au boulot.
Salut Daniel, salut toute l'équipe. Voilà quoi. Bonne continuation. J'aime beaucoup ce que vous faites. À plus.
Ouais, salut Daniel, c'était Servane de La Réunion. C'était pour réagir un petit peu au résultat des élections. On vient d'avoir le résultat. Voilà, Sarkozy qui passe a priori à 54%. On doit vous dire quand même qu'à La Réunion on est pas mal dégoûté et puis c'est même à chialer. Tellement c'est horrible qu'il n'y ait pas de démocratie en France et que soi-disant on nous en promet un paquet et nous on voit rien venir, quoi. Merci Daniel de nous donner la parole. Allez, au revoir.
Ouais. Salut, on est dimanche soir. Ça fait tout drôle, là. J'ai l'impression d'adresser des condoléances. En tout cas, ça me fout bien les boules. Et je voulais vous dire que je pense bien à vous et j'espère que dans un avenir proche ou lointain, on va pas trop vous embêter. Daniel, courage et puis rendez-vous dans 5 ans. Salut.
Donc, depuis 20 heures hier, Sarkozy est président de tous les Français. Nous sommes priés d'être tous sarkozystes. Et toi, tu nous annonces une série d'entretiens avec Noam Chomsky à partir du 14 mai. Non, mais tu le fais exprès, Daniel Mermet. Noam Chomsky sur les ondes françaises. Dis-le franchement que tu veux nous faire réfléchir. Mais ça va pas se passer comme ça. TF1 et Lagardère vont exiger un droit opposable. Maintenant qu'on est sarkozyste de force, on sait qu'il y a un gène du suicide, un gène de la pédophilie. Eh ben toi, tu as le gène de la subversion. Mais attention Daniel, Jacques Chancel n'a pas dit son dernier mot. Il est tout prêt à reprendre du service et à nous remettre dans le droit chemin avec de bons penseurs comme Jean d'Ormesson, Pascal Bruckner, Nicole Avril. Et toi, Noam Chomsky la semaine prochaine. Mais t'es vraiment incorrigible.
Salut les amis, Nicolas de Nantes et tous les copains, il est 20h30, on a sorti la préparation H parce qu'on a mal au cul et on vient d'écouter à la télévision Sixtine et Paul-Antoine qui ont donné leur vision de la politique, ils ont 18 ans, ils ont la mèche molle et vraiment c'est troublant. On rigole comme des petits fous parce que concert place de la Concorde avec Gilbert Montagnier, génial idée. Elle est vraiment belle la France. Bon courage à tous et continuons le combat parce que c'est quand même super beau et il faut continuer. À bientôt dans la rue, on va se battre, on va y arriver et dans 5 ans on prendra une belle revanche. À bientôt les amis, salut.
Mes chers compatriotes, j'éprouve depuis mon plus jeune âge
la fierté indicible d'appartenir à une grande, à une vieille, à une belle nation, la France.
L'hiver est là.
Du bleu, rien que du bleu, pour voir un peu plus loin que le bout de notre chemin.
Oh putain, je suis en colère!
Vous parlez de la France comme si c'était à vous, la Bretagne, la Provence, les forêts, les cailloux. Vous parlez de la France, vous avez dans la voix une chanson d'innocence qui dit votez pour moi.
Hier, je suis allé en boîte, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage.
Vive le roi! Vive le roi!
Rien que du bleu, rien que du bleu.
C'est la base où j'y suis encore avec l'équipe du Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, Serge Alimi, Dominique Vidal et
Flight
Bernard
number Cassin. Two, arriving from New York.
On est plus de droite que vous, on est plus de droite que vous, pas d'impôts pour les riches, pas d'impôts pour les riches.
Plus de police et moins d'artistes. Plus de police et moins d'artistes.
La gouvernement est avec nous. Les pauvres, c'est vous. Le gouvernement est avec nous. Les pauvres, c'est vous. CAC 40, ouais.
Réprimez les manifestations.
L'équipe au grand complet, ou presque, du Monde Diplomatique, autour de ce numéro du mois de mai. Mais d'abord, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de ce qui s'est dit hier. Ignacio Ramonet, travail, autorité, morale, respect, mérite, nation, identité nationale. Voilà des mots qui ne manquent pas sans doute de vous inspirer, de vous avoir fait vibrer hier soir. Les uns et les autres, on va commencer par Ignacio. Réaction ?
Non, je pense que le discours de Nicolas Sarkozy était un discours habile. Hein, c'est un discours... où il a voulu, dans une certaine mesure, surprendre tous ceux qui avaient voulu l'enfermer dans une image extrêmement, comment dirais-je, caricaturale, de dureté, etc. Et surtout qu'il a dit deux fois son discours. D'abord son discours officiel, puis ensuite son discours à la Concorde, qui était un discours, il a lui-même fait allusion à la place en question, oubliant quand même que c'est la place où on a guillotiné Louis XVI, mais enfin, c'est la place de la Concorde. Et donc il a fait un discours de concorde, de tolérance, etc. En tout cas, du point de vue, disons, rhétorique, c'était habile, alors que l'on peut imaginer, lorsqu'on regarde son programme, que ça ne correspond pas exactement à ce projet. Hein, mais ça montre indiscutablement l'intelligence politique de cette personnalité. Je pense tout de même que malgré l'utilisation de ces concepts que vous avez cités tout à l'heure, l'élection de Nicolas Sarkozy, ça marque la fin du gaullisme, tout simplement. C'est-à-dire c'est effectivement la fin d'un grand cycle qui a commencé donc en 1945, un cycle où le général de Gaulle a représenté, incarné un projet de nation avec cette idée de faire une synthèse entre le bonapartisme pour ce qui est de l'homme providentiel, du colbertisme pour ce qui est du rôle nécessaire, stratège de l'État, et le socialisme chrétien, finalement tel que quelqu'un d'une bourgeoisie éclairée comme de Gaulle pouvait l'imaginer après les difficultés, les duretés des années 30, et notamment après la guerre, avec un parti communiste tellement puissant après la résistance. Donc il y a la fin de ça, la fin du compromis entre capitalisme et socialisme, que le gaullisme, d'une certaine manière, a incarné la fin du projet d'indépendance de la France au sein du jeu géopolitique international, avec indiscutablement, cette fois-ci, ça a été dit dans le discours hier, malgré quelques précautions, l'idée que la France est tout de même un pays atlantiste, un pays, disons, pro-américain, et qui, dans le jeu de la politique internationale, bien va un petit peu partir du principe qu'elle doit s'aligner avec donc les grands, ce qui veut dire s'aligner avec avec les États-Unis. Malgré, je dis, le bémol qui a été marqué, parce que sans doute il y a eu beaucoup de remarques qui lui ont été faites après sa célèbre visite auprès du président Bush. Donc c'est la fin d'un cycle. C'est pour la première fois peut-être depuis plus d'un siècle, disons, une vraie droite qui va gouverner la France. Ça ne s'est pas produit sous la Troisième République, qui était dominée par les radicaux socialistes, sous la Quatrième République, où les socialistes avaient une importance et le gaullisme avait ce caractère-là. C'est peut-être la première fois qu'une droite qui s'assume comme telle, c'est-à-dire qui s'assume avec la volonté de vouloir changer les choses selon un programme de droite, qui est légitime, après tout, en démocratie, et qui essaie de sortir, finalement, le discours de Sarkozy, c'est « sortons de l'ambiguïté qu'a été le gaullisme ». Sortons de cette ambiguïté de vouloir faire une politique, disons, de droite sur beaucoup d'aspects, mais en même temps, en mettant de la pommade sociale par ici, de la concertation par là, en tenant compte d'un discours social, etc.
Décomplexée, une droite décomplexée.
Une droite décomplexée, comme la droite berlusconienne, comme la droite aznarienne, etc., comme d'autres exemples en Europe. C'est une première en France. C'est-à-dire, la France va vivre une expérience tout à fait particulière, qui peut-être était souhaitable, ceux qui disent, bon, mais c'est grâce à ce discours que le Front National, finalement, électoralement, en tout cas, est en train de se réduire. C'est peut-être parce que la France avait besoin, peut-être que électoralement, idéologiquement, la France avait besoin d'avoir une vraie droite, comme la question se pose maintenant, de savoir qu'est-ce qu'une vraie gauche. Et d'ailleurs, d'une certaine mesure, le fait que Sarkozy s'assume comme droite, au moment même où cette troisième défaite, en tout cas au présidentiel, à la présidentielle, fragilise le Parti Socialiste, pose la question du devenir, bien sûr, du Parti Socialiste, et au-delà du Parti Socialiste, de la gauche. Est-ce que le Parti Socialiste va s'écarteler entre une droite vers le centre et une gauche vers la gauche de la gauche? Est-ce que, dans une certaine mesure, Nicolas Sarkozy va pouvoir gouverner sans une véritable opposition politique qui sera fractionnée, affaiblie, idéologiquement, finalement, très appauvrie? Ou bien est-ce qu'il aura affaire comme seule opposition ou opposition importante, l'opposition de la rue, l'opposition des mouvements sociaux, l'opposition des protestataires, qui est une autre tradition française? Est-ce qu'il sera tenté de vouloir briser cette résistance, disons, populaire, au coup par coup, en fonction des mesures qu'il prendra? Il dit qu'il va négocier avec les partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales, mais s'il... La négociation se passe mal, voilà. Donc,
les organisations syndicales sont assez faibles en France.
Assez faibles en France, donc certaines seront tentées par cette négociation, d'autres, au contraire, parce que faibles, seront tentées par une épreuve de force dans la rue. Donc, il est clair que la France commence une nouvelle étape de son histoire, et je crois que inconsciemment, beaucoup d'observateurs à travers le monde se sont intéressés à ces élections en raison même, finalement, de ces éléments qui montrent l'originalité, finalement, du phénomène qui se produit aujourd'hui en France.
Dominique Vidal.
Petite chose dans le droit fil de ce qu'a dit Ignacio. Moi, il me semble que il faut réfléchir moins en termes de victoire de la droite que de défaite de la gauche. Et d'une défaite, deuxième idée, qui est moins une défaite politique qu'une défaite idéologique. C'est-à-dire, je crois, pour être simple et court, qu'on a eu d'un côté un homme et une coalition de forces autour de lui qui avait un programme, un projet, une vision de la société, vision qui n'est pas la nôtre, évidemment, mais qui était une vision forte, qui pouvait agglomérer, c'est une vision de droite et d'extrême droite en même temps, on l'a bien vu, et de l'autre côté, on avait un vide sidéral. Et quand je dis ça, je ne pense pas seulement à la campagne de Ségolène Royal, ou à la campagne du Parti Socialiste, si tant est qu'il ait fait campagne, ou à la gauche de la gauche, qui a aussi, il faut le dire, était incapable de se rassembler, de porter les combats qui avaient été menés avec succès. Je pense en particulier au combat contre le CPE, je pense au combat contre le traité constitutionnel, le référendum de 2005, je pense à la révolte des banlieues. Personne n'a porté tous ces combats, mais au fond, quand on essaye de comprendre pourquoi, il me semble que la raison majeure, je ne dis pas la seule, mais la raison majeure, c'est qu'il n'y a plus à gauche ni de programme, ni de vision de ce que pourrait être une évolution non libérale, voire même non capitaliste, de nos sociétés. Et c'est ce vide-là qui, à mon avis, est le terreau de la victoire de Sarkozy. Alors d'où vient ce vide? Certains hier soir s'étonnaient d'entendre des dirigeants socialistes qui se disputaient déjà pour savoir qu'est-ce qu'on avait fait ou pas fait depuis 2002. J'ai tendance à penser que, bien sûr, la date de 2002 est importante pour chacun, mais on doit remonter plus loin. D'un côté, l'usure et l'échec de la vision social-démocrate moderne, nordique, de l'évolution de nos sociétés, de l'autre côté, le mur de Berlin, c'est-à-dire la fin des expériences communistes, on a l'impression qu'à gauche, il n'y a plus de point de référence. Point de référence pas forcément, je dirais, servile, on pouvait avoir de l'intérêt pour les modèles sociaux-démocrates du Nord sans les partager entièrement, on pouvait avoir un regard sur ce qui se passait à l'Est sans partager tout ce qui se faisait à l'Est, mais on a l'impression que depuis, il n'y a plus de regard. Et c'est ça, je pense, qui est à la fois le plus inquiétant, le plus impressionnant pour des gens qui se situent dans cette mouvance comme journalistes, comme historiens, comme chercheurs, etc.
Mais qui est aussi le thème de réflexion à venir.
Mais voilà, c'est aussi la grande chance et la grande possibilité, y compris pour un jour.
Donc on a gagné, quoi.
Comme nous. Non. Mais ça va nous amener, ou ça devrait nous amener, les uns les autres, personne n'a de monopole dans ce domaine, à favoriser le dialogue et la réflexion non pas politicienne, non pas sur les petites questions de chaque jour, mais sur le type de société qu'on peut construire et la manière d'aller vers ces sociétés. Et je pense là à tellement de sociologues, d'historiens, de militants syndicaux, de gens qui sont des spécialistes de l'écologie. Il y a là toute une série de gens qui doivent, de toute évidence, être mis en tas et être incité à approfondir, à jeter les bases de ce qui peut devenir un projet de société. Sinon, évidemment, comme disait ma fille qui a 12 ans, « Papa, je voudrais pas que ça dure 10 ans. »
Réprimer les manifestations.
Bernard Cassen, après Serge, lui.
Oui. Mais nous avons assez souvent souligné dans le monde diplomatique à quel point les questions européennes étaient surdéterminées, les questions nationales, et que les actions que pouvaient entreprendre les gouvernements s'inscrivaient dans le cadre de politique européenne ou dans les interstices qu'elles laissaient. Et Nicolas Sarkozy, hier, a déclaré « La France est de retour en Europe ». Ce qui n'est d'ailleurs pas très aimable pour le président de la République jusqu'au 16 mai, qui était quand même encore présent en Europe. Mais Sarkozy répond clairement à un certain nombre de questions. Tout d'abord, il répond à une question qui est d'ailleurs posée par un de nos collaborateurs de ce mois-ci, Michel Fouché, qui était un spécialiste de géopolitique, ancien ambassadeur dans un pays balte, qui pose la question des frontières de l'Europe. L'une des causes du non, dit-il, et c'est sans doute vrai, est l'indéfinition du territoire européen. On sait où ça commence, mais on ne sait absolument pas où ça finit, ce qui crée un sentiment d'anxiété, d'incertitude, etc. Et la question turque est évidemment capitale. Et Sarkozy a dit non, la Turquie n'adhérera pas à l'Union européenne, ce qui va déjà provoquer un énorme blocage au niveau des discussions. Et il a sorti son accord pour un traité allégé ou un mini-traité à des conditions qui sont extrêmement difficiles à accepter pour les partenaires européens de la France. En particulier l'action sur la Banque Centrale Européenne, la nécessité pour l'Europe de se protéger, c'est-à-dire d'adopter des... Il a parlé de la préférence communautaire. Il revient en Europe, mais en posant sur la table des conditions qui vont rendre les discussions très difficiles. Or, maintenant, c'est l'agenda européen qui va dominer tout l'agenda politique français, avec la réunion du Conseil européen de la fin du mois de juin, sous la présidence allemande, et la préparation de ce fameux mini-traité ou traité allégé, etc. Donc, on a là un président de la République, qui était partisan du oui, qui a repris certains arguments du non, et certains même parmi les plus forts des arguments du non, et qui dit que la France est de retour en Europe. Elle est de retour en Europe, mais pour y faire quoi? Je pense qu'il va se trouver devant des contradictions assez difficiles. En tout cas, pour ceux qui liront ce numéro du Diplo, je les engage à étudier de très près le papier de Michel Fouché qui pose bien les questions que pose la construction européenne, qui sont l'absence de projet, l'absence de démocratie, et l'absence de définition géographique territoriale. Fouché répond d'une autre manière que Sarkozy, mais en tout cas, cette question est très importante.
Serge Halimi voulait intervenir parce que effectivement on a quand même ce rapprochement permanent avec les États-Unis. Alors on a vu dans un premier temps Nicolas Sarkozy aux côtés de George Bush. On a vu la fameuse photo où Nicolas Sarkozy était soudain plus grand que George Bush. Et puis après ça, plus question. Dans nos reportages récents aux États-Unis, on a essayé de savoir auprès d'observateurs. On ne connaît plus ce gars-là. C'est un peu ça, quoi. On a cru comprendre qu'effectivement, les conseillers de Nicolas Sarkozy avaient demandé aux néoconservateurs américains de ne pas trop parler à la presse.
Je crois que la campagne de Sarkozy s'inspire très largement des techniques qui ont valu à la droite américaine ses succès de ces dernières années. D'abord, il faut saluer l'artiste parce qu'il a accompli trois prouesses. D'abord, se présenter comme persécuté par le politiquement correct quand on a été ministre d'État 4 des 5 dernières années, qu'on préside un parti qui a la majorité à lui seul à l'Assemblée nationale et qu'on a l'appui de la plupart des grands médias. C'est très bien. Et ça n'est pas tout, puisqu'il a aussi réussi à se présenter comme le candidat de la rupture, de la modernité, alors que ce qu'il a obtenu, surtout dans les urnes, c'est l'appui massif des retraités. Et ce n'est pas tout. Il parle pour le peuple, parce que maintenant, il y a peu de candidats qui ont autant invoqué le peuple que lui, alors qu'il a eu le soutien enthousiaste et déclaré de la plupart des patrons d'entreprises cotées au CAC 40. Je pense que l'imitation américaine, elle tient à trois registres principaux. D'abord, se présenter comme hors système. Ensuite, insister sur la bataille des idées. Mener le combat pour les idées, penser que c'est important. Il y a eu tout ce discours sur les gens en ont assez des idéologies, etc. Et Nicolas Sarkozy n'est pas parti de cette idée. Au contraire, sa conception à lui, c'était qu'il fallait créer un corpus idéologique qui serait celui de la droite, et le faire triompher à l'issue d'une campagne électorale. Et enfin, dernière technique qu'il emprunte directement à la droite américaine, la redéfinition de la lutte de classe. Il y a une lutte de classe dans son discours, mais la ligne de clivage, de tension ne passe plus entre les petits et les gros, entre le travail et le capital, mais entre la France qui se lève tôt et les assistés, c'est-à-dire entre deux fractions de ce qu'on qualifie généralement de prolétariat. Alors si on prend le politiquement correct, Nicolas Sarkozy a fait ce que Nixon faisait dans les années 60 en se présentant comme le porte-parole d'une majorité silencieuse qui avait été en quelque sorte terrorisée par un consensus de gauche. Et c'est ce qu'il déclare au Figaro le 17 avril dernier. « Depuis 2002, je me suis construit en marge d'un système qui ne voulait pas de moi comme président de l'UMP, qui récusait mes idées comme ministre de l'Intérieur et qui contestait mes propositions. » Vous voyez donc Nicolas Sarkozy, le candidat rebelle, qui va parler pour les rebelles, qui en ont assez des politiques menées, alors même qu'il est ministre d'État. Lors de son meeting de Marseille, le 19 avril dernier, il prétend avoir, je cite, « été injurié, insulté, traîné dans la boue par tous les adeptes du politiquement correct et de la pensée unique », et il demande aux partisans qui sont dans la salle, je le cite, « Je vous demande de vous lever, je vous demande d'exprimer le sentiment de cette majorité silencieuse qui ne veut plus qu'une pensée unique parle en son nom. » La majorité silencieuse, c'est vraiment le thème de Richard Nixon pendant la campagne de 1968 aux États-Unis, après les émeutes, après le chaos, dans l'agitation des années 60. Il parle au nom de la majorité silencieuse, celle qui n'était pas dans les rues, qui était chez elle et qui a souffert en quelque sorte.
On avait ce thème-là aussi en France.
On a eu, et c'est pour ça qu'il a repris le thème des années 68, de mai 68, dans les derniers jours. Et le 12 avril à Toulouse, il a précisé « Si je suis élu président, tout ce que la droite républicaine n'osait plus faire parce qu'elle avait honte d'être la droite, je le ferai. » Donc réaffirmation en quelque sorte d'un discours de droite qui a été tu à cause d'une pseudo-dictature de la gauche. Ce qui est quand même paradoxal quand on sait à quel point la droite a conduit la politique de la France ces dernières années, y compris sur des orientations très à droite, parce qu'il faut rappeler que quand Chirac est devenu Premier ministre en 1986 et jusqu'en 1988, il a déjà conduit des politiques qui étaient des politiques ultra-libérales, sans aucune prétention au gaullisme ou à quoi que ce soit. Deuxième point qui me paraît important, c'est le travail idéologique, le travail de rupture, le travail de construction d'un corpus pour la droite. Et il est assez intéressant que dans cette campagne, les deux personnes qui ont invoqué nommément Antonio Gramsci, le communiste italien, sont d'une part Nicolas Sarkozy et d'autre part Jean-Marie Le Pen. Nicolas Sarkozy, dans un entretien au Figaro, qui explique « Au fond, j'ai fait mienne l'analyse de Gramsci, le pouvoir se gagne par les idées. C'est la première fois qu'un homme de droite assume cette bataille-là. En 2002, 15 jours après mon arrivée au ministère de l'Intérieur, une certaine presse a commencé à m'attaquer sur le thème « Sarkozy fait la guerre aux pauvres ». Je me suis dit « Soit je cède et je ne pourrai plus rien faire, soit j'engage la bataille idéologique en démontrant que la sécurité est avant tout au service des plus pauvres. » Depuis 2002, j'ai donc engagé un combat pour la maîtrise du débat d'idées. Tous les soirs, je parle de l'école en dénonçant l'héritage de 1968. Je dénonce le relativisme intellectuel, culturel, moral. Et la violence de la gauche à mon endroit vient du fait qu'elle a compris de quoi il s'agissait. Une citation très éclairante quand on y pense et qui rejoint ce que vient de dire Dominique Vidal. Il y a eu effectivement une bataille idéologique, mais cette bataille idéologique, elle n'a été menée que par un camp, le camp de la droite. Et c'est ce camp qui vient de l'emporter. Le Pen, lui-même, dans son discours du 1er mai, comme certains de vos auditeurs s'en souviennent peut-être, s'est plaint d'avoir été pillé par Nicolas Sarkozy. Il a admis dans son discours que Sarkozy avait, je cite, « réalisé un hold-up sur notre programme et surfé sur le triomphe de nos idées ». Et lui aussi, Le Pen, a cité Gramsci. Notre insuccès arithmétique, celui du Front National, masque une victoire idéologique évidente. C'est l'écrivain Gramsci communiste qui a écrit « Les victoires idéologiques précèdent les victoires électorales ». Donc deuxième dimension très forte à mon avis de la victoire de Sarkozy, l'affirmation d'un discours idéologique qui n'est pas du tout sur le thème « l'élection se gagne au centre, soyons consensuels, ayons des débats, parlons-nous, aimons-nous les uns les autres », mais on affirme un corpus idéologique, et à ce corpus idéologique s'oppose le vide du camp d'en face, et entre le vide et quelque chose qui est affirmé, même quelque chose qui est affirmé avec lequel on n'est pas toujours d'accord, on préfère quelqu'un qui donne le sentiment de savoir où il va. Dernière dimension, et alors là, qui est le grand triomphe de la droite américaine, mais aussi d'une certaine manière de la droite britannique depuis 25 ans, lorsqu'on a le soutien des catégories les plus privilégiées, parce que la sociologie de Nicolas Sarkozy électorale, c'est une sociologie de droite classique, donc effectivement, avec les scores que vous connaissez, 86,81% à Neuilly, 80,81% dans le 16e arrondissement de Paris, se présenter comme l'avocat du peuple, alors même que les propositions économiques qu'on fait vont toutes dans le sens d'un accroissement des avantages concédés aux privilégiés. Ça, c'est le meeting. En fait, il en a fait plein, mais à Clermont-Ferrand, le 27 avril dernier, il explique « Dans cette campagne, j'ai voulu m'adresser à la France exaspérée, à cette France qui souffre, à laquelle personne ne parlait plus sauf les extrêmes. Et le miracle s'est produit. Le peuple a répondu, le peuple s'est levé, il a choisi, et ce n'est pas conforme à la pensée unique, maintenant on veut le faire rasseoir. Eh bien moi, je veux être le candidat du peuple, le porte-parole du peuple, de tous ceux qui en ont assez, qu'on les mette de côté. » Et alors, quand on pense que ce discours a été tenu alors que dans la salle, vous aviez Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Barrot, Renaud Dutreuil et Jean-Pierre Raffarin, on dit bravo. Bravo, parce que ce peuple qui s'est levé, il n'était vraiment pas là, en tout cas au premier rang de son assistance. Et puis après, vous vous en souvenez, au moment du débat entre Bayrou et ses...
Ça, c'est ce que Bush, a fait. Absolument. Au cours de toute sa campagne.
Absolument. Se présenter comme...
Très populaire.
Se présenter comme le candidat du peuple et utiliser le fait que les intellectuels, les journalistes tiennent tous le même discours d'affolement anti-Sarkozy, anti-Bush pour dire, regardez les dominants, regardez cette France parisienne, etc., qui s'agite, elle s'agite, parce que moi, je veux lui arracher un certain nombre de privilèges au moment précis où on se prépare à lui concéder de nouveaux privilèges. Ça, c'est quand même une performance absolue. Et j'ajoute, cette performance absolue, elle a été réalisée parce que, comme les Américains, Nicolas Sarkozy a redéfini la question sociale, comme Nixon, comme Reagan, comme Bush. Il s'est efforcé de faire passer la ligne de démarcation, non plus entre les riches et les pauvres, les capitalistes et les travailleurs, mais entre les salariés et les assistés, les ouvriers et les fraudeurs. Au premier, aux salariés pauvres, il dit, et il est tout doux, la souffrance et la dureté de la vie ne se limitent pas à la France de la précarité. Je veux parler d'une autre souffrance bien réelle, qui ne doit pas être sous-estimée, celle de la France qui n'est pas dans la précarité, qui se lève tôt, qui travaille dur, qui se donne du mal pour nourrir sa famille et élever ses enfants. Et aux autres, alors là, le ton est beaucoup plus dur, destiné aux assistés, à ceux qui vivent d'assistanat, et le terme d'assistanat a fait son apparition éclatante pendant cette campagne, repris par Ségolène Royal et repris hier par Laurent Fabius, alors qu'avant on parlait de solidarité sociale, là maintenant on parle d'assistanat. Donc aux assistés, Nicolas Sarkozy dit « Je n'accepte pas qu'il y ait des gens qui soient au RMI et qui à la fin du mois aient autant que des gens comme vous, les salariés qui se lèvent tôt le matin ». Et ça c'est tout le discours de la droite américaine qui explique « Vous payez trop d'impôts, vous les ouvriers, les employés, pour financer des allocations qui sont versées à plus pauvres que vous ». Et je pense que si on analyse cette campagne sous ces trois angles, le paria, la personne qui mène la bataille idéologique et la personne qui arrive à redéfinir la question sociale, on a une imitation, un calque presque parfait de ce qui a réussi aux États-Unis à Bush et à Reagan et avant lui à Richard Nixon.
Concernant Bush, ça ne lui réussit plus beaucoup aujourd'hui. Il est à moins de 30% dans les sondages aujourd'hui, George W. Bush.
Certes, mais là, il y a une...
Il a fait des dégâts pour arriver jusque-là.
Il a été au pouvoir pendant 8 ans. Il a été réélu assez largement. Et entre-temps, comme vous savez, il y a eu une petite anicroche extérieure qui s'appelle la guerre d'Irak. Juste un point pour compléter ce qui a été dit aussi. Là, à l'heure actuelle, il y a un discours médiatique omniprésent sur le thème de « il faut que la gauche s'allie au centre, c'est ça la voie de l'avenir, c'est ça le Graal ». Il faut quand même rappeler à vos auditeurs, mais ils le savent sans doute, que c'est la stratégie que la gauche a menée entre 1988 et 1993, avec pour résultat le désastre électoral de mars 1993. C'est aussi la stratégie d'ouverture social-démocrate, de reconnaissance du marché, de privatisation, qu'a conduite Lionel Jospin entre 2002 et 2007, avec les résultats qu'on connaît. Donc je ne suis pas sûr que ce soit de ce côté-là que se situent les chances d'avenir et de salut de la gauche française.
Laurent Fabius a parlé d'une gauche décomplexée. J'ai entendu ça.
Oui, reste à savoir comment on définit les complexes. Où sont les complexes?
Dans la gueule, oui, dans la gueule. Dans la gueule, oh, dans la gueule. Dans la gueule, oui, dans la gueule. Dans la gueule, oh, dans la gueule. Le blanc nous noircira tous un nain.
Au pilot.
Les négras.
Les loris.
Les frigos.
Les rastos.
Les bicas.
Les cabis.
En fracas.
Et si c'est
pas le cas, prends ma main. Point. Dans la gueule, oui, dans la gueule. Dans la gueule, oh, dans la gueule. Dans la gueule, oui, dans la gueule. Dans la gueule, oh, dans la gueule.
Nous croquera tous un à un.
609,
sans l'air sort,
j'ai misé
sur le 8,
9 en 6,
600 gelés,
c'est touffu,
c'est foutu,
j'ai serré,
mon moteur et c'est la fin. Point.
Dans la gueule, oui, dans la gueule. Dans la gueule, oh, dans la gueule. Dans la gueule, oui, dans la gueule. Dans la gueule, oh, dans la gueule. Dans la gueule, je suis tout mis dans la gueule. Dans la gueule, oui, dans la gueule. On s'est tout pris dans la gueule.
Voilà, merci à tous, merci à l'équipe du Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, Dominique Vidal, Serge Halimi et Bernard Cassen. Je vous signale la publication d'un bouquin très passionnant qui s'intitule « Expiration » de Anna Borel, qui était passée un peu dans notre équipe et qui est une femme charmante, et son bouquin est très bon. Ça vient de sortir aux éditions de Noël. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur le site là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Pierre-Yves de Roulin et Benjamin de la Gâtinais. C'est Yann Chouka et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, ainsi que Charlotte Perry. Et c'est Christophe Humbert qui a recueilli vos messages laissés dans la boîte vocale de la basse législature au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et puis, un moment important pour la basse législature, ce sera à partir de lundi prochain, 14 mai, à partir du 14 mai, une série exceptionnelle d'entretiens avec Noam Chomsky, l'intellectuel américain, et une série d'autres intellectuels qui, j'espère, seront amenés à vous redonner la patate.
Réprimer les manifestations.
Voilà, vous pouvez voir les images de cette petite séquence sur contreras.fr. Contreras, c'est O-N-T-R-E-R-A-S.fr. Vous avez compris que c'était le nouveau type de manifestation qu'on a à partir d'aujourd'hui, qu'on aura dans les semaines prochaines, dont nous ne manquerons pas de nous faire évidemment l'écho.